Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Mourir à 27 ans, c'est très jeune, mais mourir en plus d'une façon très idiote, c'est pire. Et c'est malheureusement le sort réservé à un roi méconnu, le dernier des Valois directs, si j'ose dire. Stéphane Bern nous raconte Charles VIII.
Oh, ce pauvre Charles VIII, un roi apprécié par ses sujets que l'on surnommait l'affable ou le courtois. Et bim, il venait d'avoir 27 ans, bim. Il était roi depuis 15 ans. À 27 ans, Charles VIII succombe. Nous sommes le 7 avril 1498. Son épouse, la née duchesse Anne de Bretagne, déprime au château d'Amboise. Elle vient d'accoucher d'une fille mort-née. Sur les 6 enfants qu'elle a mis au monde, aucun n'a dépassé les 3 ans. Cherchant à la distraire, Charles VIII lui propose d'assister à une partie de jeu de paume. Pour atteindre les fossés du château où se déroule le spectacle, le roi et son épouse empruntent une galerie souterraine. Sans doute un peu trop pressé, Charles VIII se heurte la tête sur le linteau d'une porte. Il chancelle, mais cela ne l'empêche pas d'apprécier le spectacle pendant un long moment. Quand tout à coup, alors qu'il s'entretient avec son voisin, il perd connaissance. Son état est jugé trop critique pour tenter de le transporter. Il est alors allongé sur une paillasse à même le sol. Le roi meurt 9 heures plus tard sans que l'on puisse déterminer tout de suite la raison du décès. Une fin tragique, stupide et surtout prématurée. Car dès sa naissance, Charles est voué à jouer un grand rôle pour le royaume de France. Charles voit le jour le 30 juin 1470 au château d'Amboise. C'est là, loin de la cour et de son père Louis XI, qu'il passe ses premières années. Pour autant, 500 personnes seraient chargées de veiller sur lui en permanence. Le dauphin a en effet une santé fragile. Charles ne manque de rien, soins médicaux, activités physiques. Il excelle rapidement comme cavalier et apprécie la fauconnerie et le fameux jeu de paume. Louis XI fait tout pour que son unique fils, encore en vie et donc successeur à la couronne de France, atteigne l'âge adulte. Le roi a besoin du dauphin pour agrandir son royaume. Il le promet en mariage à presque toute l'Europe. En 1475, le traité de Picquigny, qui met officiellement fin à la guerre de Cent Ans, est assorti d'une promesse de mariage entre Charles et Élisabeth d'York, fille du roi Édouard IV d'Angleterre. 2 ans plus tard, Louis XI a une nouvelle idée. Pour récupérer des états de Bourgogne, il suggère plutôt une alliance entre son fils et Marie de Bourgogne. Mais elle meurt accidentellement. Pour qu'à cela ne tienne, il propose de fiancer Charles à Marguerite d'Autriche. Elle est ni plus ni moins que la fille de la défunte et vient de fêter ses 3 ans. Comme le veut la tradition, la petite Marguerite quitte père et mère sur le champ pour la France. Bon, elle y restera 8 ans. En 1483, Louis XI décède des suites d'une grave maladie. Charles VIII n'a alors que 13 ans. Sa sœur aînée, Anne de Beaujeu, assure la régence avec son mari. Elle est surnommée la dame de fer dans des gants de velours. Elle doit faire face à la guerre folle. Il s'agit d'une coalition des grands princes qui veulent renverser le pouvoir. La régente parvient à mettre un terme à cette menace. Elle fait notamment jeter en prison le duc d'Orléans, cousin de Charles VIII et futur roi Louis XII. Anne de Beaujeu veut poursuivre l'expansion territoriale de son père et pour cela, elle prévoit de s'emparer du très prisé duché de Bretagne. Charles VIII a désormais 21 ans et entreprend sa première grande mission. Il assiège Rennes, où se trouve la duchesse Anne de Bretagne. La ville finit par se rendre. Malgré son engagement auprès de Marguerite de Bourgogne, la raison d'État l'emporte et Charles VIII demande Anne de Bretagne en mariage. C'est l'unique moyen pour s'emparer du duché et pacifier le royaume. Le 6 décembre 1491, Charles VIII épouse alors Anne de Bretagne au château de Langeais, en Touraine. Avant cela, la duchesse qui boite légèrement doit soumettre un examen physique peu fréquent. Elle est présentée entièrement nue à un collège de pseudo-experts, parmi eux Anne de Beaujeu et son mari, Pierre, ainsi que le duc d'Orléans, sorti de prison et gracié par Charles VIII. L'objectif est de déterminer de visu si la future reine ne présente pas des signes défavorables à une bonne fécondité. Anne de Bretagne semble avoir réussi le test sans problème notoire.
Super.
Pour sceller l'union de son frère Charles VIII et de la duchesse de Bretagne, Anne de Beaujeu fait ajouter une clause au contrat. En cas d'absence d'héritier mâle ou de mort du souverain, la reine ne pourra se remarier qu'avec le successeur du roi de France. Elle cède aussi les droits de son duché de Bretagne. Désormais, quoi qu'il arrive, la Bretagne appartient au royaume de France. Charles VIII est auréolé de prestige. Il hérite d'un royaume pacifié et réussit même à l'agrandir. Bienveillant envers son peuple, il n'assomme pas ses sujets avec des impôts exorbitants. À 21 ans, le jeune roi a foi dans son règne qu'il espère, vous vous en doutez, le plus long possible. Charles VIII veut imposer le royaume de France comme le plus puissant du monde chrétien. Et pour y parvenir, il lance en 1494 une expédition en Italie. Il projette de s'emparer du riche royaume de Naples, qu'il estime appartenir à la France. Mais pour faire passer le coût astronomique de cette guerre en Italie, il affirme mener une croisade chrétienne contre l'Empire ottoman. Les Turcs menacent en effet le pape de l'autre côté de l'Adriatique. Le roi de France s'engage donc dans cette entreprise à la tête d'une armée de 28 000 hommes. Charles VIII a 24 ans, il ne lui reste plus que 3 années de règne. On le sait déjà, mais lui ne le sait pas encore. Vous savez, Mathieu, le roi aurait pu trépasser en Italie. Charles VIII, qui a une santé fragile depuis son enfance, contracte en Italie la petite vérole, puis la rougeole. Il s'en amuse d'ailleurs dans l'une de ses lettres. « Pour habiller mon visage, il ne suffisait pas que juste la petite vérole, mais j'ai eu la rougeole de laquelle, Dieu merci, j'ai guéri. » Malgré les maladies du roi, cette première guerre d'Italie est pour le moment un franc succès. L'armée française progresse, sans rencontrer de réelles oppositions. En février 1495, Charles VIII entre triomphalement dans Naples. Les premières semaines, l'occupation est plutôt bien acceptée par les habitants. Le roi de France est populaire, il faut dire qu'il diminue même les impôts, mais progressivement, la situation se gâte. Une coalition anti-française voit le jour. Elle regroupe la République de Venise, le duché de Milan, le Saint-Empire romain germanique, les États pontificaux et la couronne d'Aragon. Le message est clair. On ne veut pas que la France s'empare d'une partie de l'Italie. Charles VIII doit faire profil bas s'il veut éviter une guerre sanglante. Le roi met à la tête du royaume de Naples Gilles de Montpensier, qui l'entoure de seulement 3000 hommes. Lui décide de regagner la France. Mais le trajet du retour s'annonce chaotique. Les soldats français repartent d'Italie avec un cadeau empoisonné. Beaucoup ont contracté ce qu'on appelle le mal de Naples, plus connu aujourd'hui sous son nom de syphilis, rapporté par Christophe Colomb dans ses bagages après avoir posé le pied et pas que le pied en Amérique. Décimée, l'armée française, affichant à peine 8000 hommes, tombe dans un guet-apens à Forno, au sud de Parme. Charles VIII ne doit son salut qu'à sa bravoure et celle de son armée, mais aussi au temps perdu par les coalisés pour récupérer les richesses pillées par les Français durant les 18 mois passés en Italie. De retour en France, Charles VIII se consacre à diffuser dans son royaume la Renaissance qu'il a découverte et admirée lors de son expédition. Constatant qu'aucun de ses héritiers ne parvient à dépasser les 3 ans, il se réfugie alors dans la prière et la chasteté. Sa mort prématurée à 27 ans donc serait due à une hémorragie cérébrale. Comme elle l'avait promis le jour de son mariage avec Charles VIII, Anne de Bretagne se remarie avec son héritier, le duc d'Orléans, futur Louis XII. Alors que leur fille Claude deviendra reine de France en épousant François Ier. Et ça, Mathieu, on peut le dire, ça compte pas pour des prunes.
Reine Claude Prune, bravo Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
Le pire,